Bonjour et bienvenue à tous. Profite de tout rendez-vous de la rentrée et est heureux de vous présenter sur l'antenne de Fréquence Protestante son émission mensuelle sur le cinéma champ contre champ. Émission de rentrée donc, qui sera animée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Dominique Bénard, bonjour Dominique.
Bonjour Jean.
Et Jean Miklowski, bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Alors la rentrée est quand même assez sage cette année. Son début a été marqué surtout par la sortie du Poirier sauvage du Turc Nuri Belçaylan, malheureusement apparu trop tôt sur les écrans pour que nous ayons pu nous rendre compte. Mais nous essayons de nous rattraper en parlant d'un autre des films les plus chaleureusement accueillis en ce début de saison. Il s'agit de Burning, du grand cinéaste coréen Lee Chang-dong. Et notre panier du mois sera complété par Sophia, premier film émouvant de la jeune réalisatrice marocaine Merim Ben Barek, et par un film du cinéaste anglais Richard Eyre, My Lady, qui nous a donné le plaisir de retrouver à l'écran la grande Emma Thompson. Et vous aurez ensuite, bien sûr, droit au coup de cœur habituel de l'équipe champ contre champ. Et nous allons commencer tout de suite avec My Lady. Son réalisateur, l'anglais Richard Eyre, auteur entre autres de Iris en 2001, de Chronique d'un scandale en 2006 et de Otherman en 2008, film assez vite oublié, il faut le dire, et relativement peu connu au cinéma. Ben, il n'en est pas de même de son scénariste, hein, qui n'est autre que le grand romancier anglais Ian McEwan. C'est l'un de ses romans les plus forts, L'intérêt de l'enfant, qui se trouve aujourd'hui adapté à l'écran sous le titre de My Lady. Ian Ewan ayant lui-même réalisé le délicat passage du roman au scénario. Roman et film se repose sur l'acte, sur le Children Act, loi anglaise de 1989, qui énonce que lorsque la Cour de justice doit prendre une décision concernant l'éducation d'un enfant, l'intérêt de l'enfant doit être la première considération de la Cour. Françoise, est-ce que l'émotion qu'on peut imaginer de l'application d'un tel texte dans des situations compliquées et délicates est aussi au rendez-vous?
Ah oui, alors là, l'émotion est bien au rendez-vous. Est-elle de bonne qualité? C'est une autre question. L'écrivain, parce que si l'écrivain McEwan nous touche précisément par la sobriété dans son récit, McEwan, scénariste, lui, n'hésite pas à nous submerger d'émotions. Alors, il s'agit en deux mots de l'attachement tragique, passionnel, d'un adolescent de 17 ans qui s'appelle Adam, pour une adulte, en l'occurrence une femme, qui est juge à la Haute Cour de Londres, Fiona May, incarnée par la très talentueuse, en effet, et très belle Emma Thompson. Au début du film, Fiona se voit reprocher par son mari l'échec de leur couple. Elle serait, dit-il, totalement absorbée par ses dossiers. Et certes, il l'aime vraiment, mais il a choisi d'avoir une liaison extra-conjugale. Et c'est l'effondrement pour Fiona, qui se voit au même moment appeler pour une affaire urgente un jeune garçon atteint de leucémie, refuse en accord avec ses parents la transfusion sanguine qui seule pourrait le sauver. Et ceci au nom de leur foi, ils sont témoins de Jéhovah. L'hôpital fait appel à la justice, c'est urgent, et Madame la juge décide alors de passer voir le jeune garçon avant de statuer.
Et elle autorise l'hôpital à pratiquer la transfusion sanguine malgré les convictions religieuses du jeune homme.
Tout à fait. Elle a rencontré Adam dans son lit d'hôpital. C'est un jeune homme intelligent, sensible et tout à fait conscient des conséquences de son choix. Leur rencontre se clôt de façon très émouvante par un bref échange musical. Il s'agit d'une mélodie de Benjamin Britten sur un poème de Yeats qu'Adam joue sur sa guitare et que Fiona, fine musicienne, chante tout doucement. C'est une très belle séquence. Ainsi d'ailleurs que la suivante qui se passe au tribunal où Madame la juge invoque le Children Act, voté au Royaume-Uni il y a 30 ans et qui place l'intérêt de l'enfant au-dessus de toute autre considération. Elle tranche, l'enfant doit être protégé contre sa religion et contre lui-même. Adam sera donc transfusé. Hélas, le réalisateur s'est cru obligé de filmer la scène longuement au cas où nous n'aurions pas bien compris l'importance de la chose. Bon, mais Adam est sauvé, il est bien vivant, il a repris sa vie normale de lycéen. Et cette vie, il la doit à celle qu'on appelle My Lady, et qui maintenant l'habite au plus profond de lui-même. Entre-temps, il a lu tous les poèmes de Yeats, et Adam veut la revoir absolument. Fiona se retranche dans le silence face aux demandes insistantes du jeune garçon.
Alors, Fiona, c'est un beau personnage, hein. À l'écoute, ouais. Bienveillante, d'une éthique irréprochable. Que pouvait-elle faire de plus pour Adam?
Je crois que c'est bien la question, c'est une vraie question. Une question que le film pose avec une force déroutante, qui est la question de la responsabilité individuelle. Celle du juge, bien sûr. L'intérêt de l'enfant se trouve-t-il dans le respect de ses convictions religieuses ou bien dans le traitement médical imposé malgré celle-ci ? Mais aussi, celle de l'adulte en tant que tel. Parce que où s'arrête en effet la responsabilité de l'adulte face à l'attachement éperdu qu'il a suscité souvent à son insu chez un adolescent ? Et c'est bien là le drame qui clôt le film. Je regrette que le film se laisse aller à la surenchère. Je regrette qu'il en arrive à basculer dans le mélodrame au lieu de rester dans la sobriété d'un drame, du drame, et il me semble que ça aurait bien suffi. Toutefois, à mes yeux, le film vaut vraiment d'être vu parce qu'il pose cette question fondamentale de la responsabilité individuelle. Et tout autant pour la très belle performance des acteurs, avec mention spéciale pour le jeune Fionn Whitehead, qui joue le rôle d'Adam avec un naturel et une authenticité époustouflante.
Oui, mais François, je crois comprendre à t'entendre que ton adhésion à ce film n'est pas tout à fait sans limite. Dominique, oui, comment toi-même y as-tu réagi ?
Eh bien, moi non plus, c'est pas tout à fait sans limite, mais j'ai trouvé quand même très intéressant l'histoire de cette femme qui doit appliquer une loi très rigoureuse et en apparence assez simple à appliquer, puisque l'intérêt de l'enfant doit primer toute considération. Et en fait, elle le fait seule, et c'est vraiment sa grande, grande solitude face à des décisions aussi compliquées à prendre. Est impressionnante et très bien rendue, je trouve, dans ce film.
Oui, je crois que le sujet est effectivement passionnant.
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce film, comme les deux précédents intervenants, mais hélas, pas pour les mêmes raisons, et j'ai un peu honte de le dire. Moi, ce film, pendant 2 heures, je me suis régalé parce que j'ai vu un film anglais, mais tellement anglais. C'est invraisemblable. Les intérieurs sont anglais, typiquement anglais. Les personnages sont anglais. Les mouvements de caméra sont lents, sont simples, sont faciles. Vraiment, j'avais l'impression de manger un bonbon anglais tout le temps. Et c'était très agréable.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, en effet, c'est un film anglais et se régale. Ouais. J'ai pas pensé, tu vois, mais oui, c'est un aspect du film qui peut attirer, tout à fait.
Moi, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus attiré, plus que l'histoire, en un sens.
Oui, bah écoute.
C'est un peu dommage, peut-être, mais
non,
c'est comme
ça existe. Voilà.
Non, enfin, moi, je réagis un petit peu à l'inverse, parce que, effectivement, je n'ai pas du tout été sensible à ce côté anglais, j'ai plutôt été sensible au fait que j'ai trouvé ça terriblement lourd.
Ah, c'est so British, quand même.
C'est
so British.
Oh, c'est mélo. Oui, mais à certains moments, on n'en peut plus.
Mais c'est... Enfin, je sais pas, moi, personnellement, c'est vraiment le film anglais par excellence.
Il y a quand même des scènes qui sont... Ça se fait plus, quoi. Je pense à ça, par exemple, à l'enterrement d'Adam à la fin. Est-ce qu'on peut imaginer un enterrement sans pluie ? Non, bien sûr. Notre nous impose de la pluie.
On est en Angleterre, quand même.
Et puis, dans un enterrement, Dieu est toujours là. Ben, Dieu est là. Dieu, comment... Qu'est-ce que c'est ? Dieu, c'est un plan plongé. Dans tous les enterrements, il y a des plans plongés qui signifient Dieu.
Ouais.
Voilà. C'est ce cinéma très, très, très attendu, très classique, qui m'a un petit peu hérité.
Et puis, il en rajoute une couche en faisant déposer la guitare sur le cercueil de l'enfant. Là, moi, je pouvais plus. Ouais. Non.
Moi, c'est ce
non, on avait compris avant, c'était pas la peine de le...
Mais moi, c'est ce qui m'a plu dans ce film, justement. C'est cette plongée dans l'univers anglais. Voilà. Mais enfin, c'est un peu marginal par rapport au thème que tu as évoqué.
Je trouve qu'il y a un aspect très intéressant dans ce film. C'est le fait que... C'est la façon dont la dramaturgie est conduite. On part avec un sujet extrêmement fort, qui est ce Children Act, et finalement, ça ne sert que de point de départ, et ensuite, on s'en éloigne pour passer à autre chose. Il n'apparaît plus un peu que comme un truc à l'arrière-plan. Je trouve que c'est un petit peu une espèce de moteur hybride, où on démarre à l'électricité et on continue avec l'essence.
Non, c'est parce qu'elle a rendu son jugement en fonction de ce qu'elle considérait être l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire le laisser vivant. Adam était mort, témoin de Jéhovah, celui était vivant grâce au jugement. Oui. À ce moment-là, lui conçoit pour cette juge, cette femme qui lui a sauvé la vie, des sentiments incroyablement forts et qu'il ne maîtrise absolument plus. Il y a un rapport.
Il y a un rapport, mais ça s'éloigne quand même pas mal.
Il lui doit la
On
vie.
Aurait pu imaginer un film basé uniquement sur le Children Act, avec des situations où il y avait des débats extrêmement serrés sur le problème posé par le sujet. Or, c'est pas le cas.
Oui, mais on aurait un docu-fiction, un de plus. On n'aurait plus des docu-fictions.
Il y a aussi tout le caractère sexuel, entre guillemets. Hein. D'abord, entre elle et son mari, puis oui. entre elle et, lui, et le oui. jeune garçon. Bah, tout ça est un peu, là aussi, un peu anglais.
moi, ce qui m'a gêné, c'est de voir à quel point le livre de McEwan est intéressant, sobre et très émouvant. Et quand McEwan devient scénariste, moi, je regrette, mais bon, il n'est pas bon, quoi. Il devrait rester écrivain. Hein.
Oui, je crois que le journaliste du Monde disait qu'on regrettait qu'on a l'impression que McEwan ne faisait pas confiance à son spectateur, qu'il faisait confiance à son lecteur et pas à son spectateur.
Ah, le journaliste du Monde, oui, il parle d'un écrivain qui défait le travail accompli dans son roman. Je ne sais pas comment s'appelle le journaliste, mais j'ai lu ça dans le Monde et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ouais. Le scénariste qui semble galvauder la sobriété du romancier, ouais. dit le Monde. Bon, c'est exactement ce que j'ai, ayant lu le livre avant. Voilà.
Oui, c'est toujours difficile de lire un livre avant de voir un film.
Oui, ça pose tout le problème de l'adaptation littéraire. Il y en a qui sont parfaitement réussis et il y en a qui sont
moins réussis.
C'est vrai d'ailleurs que ce soit l'auteur du roman lui-même qui fait l'adaptation. Comme quoi, c'est peut-être pas une bonne chose que ce soit l'écrivain qui écrive le scénario.
Oui, par exemple, Au revoir là-haut, je cite cet exemple, le film et le livre sont tous les deux parfaits. Mais c'est rare.
Ouais. Mais c'est pas Dupontel qui a fait aussi...
Dupontel. Il a fait les deux.
Oui. Il y a des gens qui y arrivent.
Oui. Donc, en conclusion, un peu, c'est un film à voir, mais...
À voir.
Je crois d'ailleurs qu'il a un assez gros succès public, ce qui prouve que les gens aiment bien ce film.
Il tient depuis le premier août.
Je crois qu'il va dépasser les 400 000 entrées, c'est quand même
remarquable. Il tient depuis le premier août, il est toujours sur les écrans.
Bien. Ben, on va changer complètement... Enfin, pas tant que ça, d'ailleurs. Parce qu'on va quand même rester dans des films traitant d'un sujet de société avec le film suivant, Sophia. Alors là, le film est marocain. Son auteur, c'est une femme, Myriam Ben Barek, qui nous livre là sa première réalisation. Il existe actuellement au Maroc, il faut vraiment le souligner, un cinéma vigoureux, courageux, qui porte sur la société marocaine un regard critique et parfois impitoyable. Je pense par exemple à Maroc de Laila Mrakchi, ou encore à Casanegra de Nour Eddine Lakhmari, et puis surtout au film de Nabila Ayouch, parce que c'est le plus connu, Les Chevaux de Dieu, Much Love, Razia. Donc c'est à cette catégorie de cinéastes qui n'ont pas peur de braquer leur caméra là où ça fait mal qu'appartient Myriam Ben Barek. Et le monde qu'elle dépeint fait assez frémir. Avec, curieusement, une situation dont le point de départ, comme dans le film dont on vient de parler, est juridique. On vient de voir que la trame de My Lady reposait sur la loi dite du Children Act. Jean, est-ce que c'est pas également par une référence à un texte juridique que s'ouvre Sophia ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, la réalisatrice pose dès le début le contexte de cette histoire de Sophia, en écrivant, noir sur blanc, sur un bandeau, que les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Maroc et punies de prison. Alors, on entre ensuite dans une famille de Casablanca, au milieu d'un repas de famille, où les hommes, deux beaux-frères, discutent d'un projet immobilier qui pourrait leur apporter gros, grâce au concours et à l'apport d'argent du mari français de la sœur de la maîtresse de maison. La caméra se concentre ensuite, insensiblement, sur Sophia, la fille de la maison, environ 20 ans, qui paraît préoccupée et se tient le ventre de douleur.
Alors, pour fixer les choses, c'est bien elle le personnage principal.
Oui, absolument. Et cette jeune fille, au visage ingrat, que son père oblige à porter la djellaba dès qu'elle sort, est l'héroïne du film. Tout en souffrant, elle tente de donner le change, et les hommes à table peuvent penser qu'il s'agit d'un banal problème de femme. Heureusement, Léna, sa cousine, qui est étudiante en médecine, va prendre les choses en main. Elle a vite fait de comprendre que Sophia est enceinte et elle l'emmène aux urgences. Mais dès l'accueil, l'identité du père pose problème. Grâce aux relations de Léna dans le milieu médical, Sophia est finalement admise dans une clinique, mais pour 24 heures seulement, soit le délai légal pour présenter les papiers du père. On ne pas oublier que nous sommes en 2018 et bien sûr, les portables ne font que sonner, marquant les interrogations de la famille des deux jeunes filles qui ont disparu de la table familiale. Tout cela accroît l'intensité dramatique du récit et crée un suspense qui augmente encore après la naissance d'une petite fille. Mais au-delà de l'histoire tragique de Sophia, le film dresse un portrait sans concession de la société marocaine, quel que soit le niveau social des personnages. Cela commence dans la famille pauvre du jeune Omar, qui est soupçonné d'être le père du bébé, dont la mère rêve d'habiter les belles maisons des quartiers riches. Cette mère comprend tout de suite le bénéfice que sa famille pourrait tirer d'un mariage intéressant. Les femmes, malgré leur positionnement théoriquement inférieur aux hommes, tiennent le haut du pavé tout au long du film. Même Sofia va se révéler combative. Elle devient d'abord de plus en plus jolie au fur et à mesure qu'elle affirme son indépendance. Ne va-t-elle pas d'ailleurs finir par faire partie elle-même du camp des oppresseurs ? Léna, elle, est une jeune fille libérée qui prend ses responsabilités. En revanche, les personnages masculins sont insignifiants, quasi absents. Le père de Sofia s'efface devant sa femme et Omar est un garçon doux et un peu perdu dans son rôle de soutien de famille.
Est-ce que tu classerais ce film dans la catégorie des films militants ?
Ah oui, sans aucun doute. Et si la réalisatrice dénonce la condition de la femme constamment soumise à la loi des hommes, elle insiste surtout sur les dégâts que cette injustice provoque sur la société marocaine et dont tout le monde pâtit. Et cela dans toutes les couches sociales. Chacun, chacune défend son intérêt matériel avec un grand cynisme et autant d'hypocrisie. On est confondu de voir combien il y a peu d'amour dans les relations entre hommes et femmes. La réalisatrice dénonce aussi les inégalités sociales criantes. Elle montre d'un côté les problèmes de chômage qui frappent les jeunes du quartier populaire d'Herb Sultane, où habite Omar, et de l'autre, le quartier résidentiel des riches, où habitent les parents de Léna. Et l'une des scènes les plus marquantes est pendant la préparation du mariage, une conversation à cœur ouvert des femmes qui racontent des stratégies qui leur ont permis, en partie tout au moins, d'échapper au plus dur de la loi masculine. Par exemple, le mariage avec un Français. La réalisatrice démontre qu'à trop oppresser les femmes, la société marocaine se retrouve dans une impasse et est profondément désespérante.
Françoise, est-ce que toi aussi tu as été avant tout frappée par ce côté désespérant du film ? Est-ce que c'est ça d'abord que tu retiens ?
C'est en effet un film noir foncé, superbement cynique. Alors moi, ce que je retiens, non, c'est, oui, en effet, c'est un film noir à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je ne m'attendais à rien du tout. Je ne m'attendais à rien du tout parce que quand on voit le bandeau dont tu parles, Jean, disant que toute relation sexuelle en dehors du mariage doit être punie, etc., je me suis dit, bon, on s'est reparti pour un tour. Ce film, on l'a déjà vu 30 fois, on va le voir une 31e fois, sur la situation de la femme dans une civilisation qui, etc. Or, ce n'est pas du tout un film sur la situation d'une femme marocaine. Moi, j'ai trouvé incroyable. C'est pas du tout la transgression que l'on croit. On se fait rouler dans la farine. D'abord, on pense que la transgression, elle est d'ordre sexuel, etc. C'est pas du tout ça. Et la révélation à la fin du film qui fait basculer le film, j'ai dit, mais chapeau le scénario.
C'est une vraie trouvaille. C'est pas du tout
la transgression que l'on croit. Moi, je me suis fait rouler dans la farine. Peut-être que tout le monde, d'ailleurs.
Ah bah tout le monde, mais je trouve justement que ce prix du scénario à Cannes, dans la section Un certain regard, est vraiment très justifié. C'est un scénario d'une intelligence remarquable.
Absolument, et qui pense à revoir ensuite le film.
Diabolique. C'est diabolique, on s'y attend pas du tout. On voit pendant toute une partie du film en elle une victime et on s'aperçoit qu'en fait elle essaye de défendre ses propres intérêts à sa façon et dans le système où il y a des contraintes et
la victime c'est pas elle.
Mais elle se bat.
La victime c'est Omar.
Moi je pense que c'est quand même le seul. Moi je dirais que tout le monde est victime parce que elle a recours à ce stratagème parce que la société l'oblige, elle n'a pas de solution.
Incroyable de voir un film marocain qui montre que la victime, ce n'est pas la femme victime des impératifs religieux dans un pays musulman, mais que l'homme. Ce pauvre type, il est soutien de famille parce que son père est mort, et deux, on le fait passer pour le père de l'enfant, ce qu'il n'est pas, il va de nouveau être soutien de famille pour un enfant pour l'accueillir pour rien, et une femme qu'il n'aime pas, il lui crache à la figure. Enfin, c'est la victime, c'est l'homme.
Mais je trouve qu'ils sont tous victimes parce que ce que tu disais, c'est frappant. Il y a très peu d'amour dans les relations entre hommes et femmes.
Il n'y a pas d'amour.
Et de ça, tout le monde est victime. Elle est victime, elle sort une porte de sortie. Évidemment, c'est terrifiant parce qu'elle devient oppresseur, comme tu l'as dit très justement. Oui. Donc, on en est retourné aussi. On la voyait en victime effacée, silencieuse, etc. Ouais. On s'aperçoit que pendant ce temps-là, son esprit travaillait.
Ce qui est intéressant, c'est de voir son physique qui change.
Mais justement, comment avez-vous trouvé l'interprétation de Sofia
C'est curieux. Elle a l'air Elle a l'air butée,
têtue. Ah oui, au début, complètement.
Avec une espèce de fausse humilité. Enfin, tu rends compte qu'elle est complètement ambiguë, qu'elle a un double jeu d'un bout à l'autre, qu'elle n'a pas d'état d'âme. Hein, elle a tissé sa toile
autour d'un arbre. Personne n'a d'état
d'âme. Oui, d'accord, mais elle est quand même le personnage auquel on s'intéresse le plus. Elle a tissé sa toile tout autour de ce malheureux jeune homme et elle n'a pas d'état d'âme. Elle le pique avec son venin. Et il est fou.
Et moi, je trouve d'ailleurs que ça aussi, c'est très bien fait. Quand j'ai vu le film, je me dis, oh, elle joue mal, cette fille.
Oui.
Elle est pour génial.
C'est exprès.
Toujours la même chose. Oui. Et quand on connaît la fin du film, on dit mais c'est exprès. Ça fait partie de quelque chose que le réalisateur lui a demandé et ça marche très très fort. Mais il faut vraiment savoir la fin pour ne pas penser qu'elle est nulle cette
film. Mais c'est un film qui te surprend d'un bout à l'autre.
Ah,
absolument.
Oui,
à chaque fois, on a tout faux dans nos hypothèses. Oui. Moi, j'ai adoré.
J'ai bien aimé la scène où Léna vient offrir du fric à Omar.
Oui.
Et lui, il répond ah, je vais me payer une pute de luxe. Son réflexe était vraiment. Tout est étonnant dans ce film.
Je dirais, mais personne ne peut rien lui reprocher à elle, parce que tous, ils ont leurs arrangements plus hypocrites et plus cyniques les uns que les autres, avec l'argent, dans l'hôpital.
Oui, quand dira-t-on aussi la famille,
C'est bien ce que j'en dis aussi. Finalement, ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans ce truc-là. Tous les hommes, c'est ridicule.
Complètement.
Elles ont le pouvoir, sauf que la pauvre Sophia, au départ, elle n'a pas choisi ce qui lui arrive.
Non, ce sont les femmes qui sont les moteurs de l'histoire. La mère de Omar, les deux familles, les femmes de deux familles, Françoise.
Ce qui reste mystérieux, pour moi, je n'ai pas bien compris, c'est, donc elle dit que le père de l'enfant, c'est...
Ahmed.
C'est Ahmed. Ahmed, on le voit dans le... Faut pas le dire. J'ai rien dit, voilà.
C'est quelqu'un d'autre.
Personne ici ne sait qui est Ahmed.
On va enlever ce bout de l'enregistrement. Faut supprimer.
C'est vraiment un film très très intéressant.
Très intéressant.
Et puis avec parfois du très beau cinéma, très belles couleurs. Je reviens travailler sur les couleurs. Je ressens en particulier par exemple la scène sur la terrasse.
Ah, très belle.
Légèrement surexposée. C'est, tout est blanc. Il y a le vent qui se compte. C'est vraiment du.
C'est un très beau film.
Un très beau film. Voilà. Donc on va s'arrêter quelques secondes pour. Reprendre souffle et ensuite on va continuer. Eh bien, nous allons maintenant reprendre avec Burning, film du réalisateur coréen Lee Chang-dong. Né en 1954, ce n'est qu'en 1997, après une première carrière de romancier, que Lee Chang-dong se lance dans le cinéma avec Greenfish. Sa filmographie par la suite ne va pas être très abondante, 6 films jusqu'à ce jour, mais marquée de films notables, avec en particulier Oasis en 2002, Secret Sunshine en 2007 et Poetry en 2010. Après 2010, Lee Chang-dong plonge dans le silence. Non qu'il ne travaille pas sur des projets, mais parce que, dit-il, aucun de ses projets ne l'a tiré vraiment. C'est une demande de la NHK, un groupe audiovisuel japonais, qui souhaitait la réalisation de films à partir de nouvelles de Haruki Murakami, qui déclenche la mise en chantier de Burning. Burning a été plébiscité à Cannes, on lui promettait la Palme d'Or, en fait il n'a rien reçu. Mais depuis, l'admiration des médias n'a pas faibli. Dominique, est-ce que tu t'associes à ces louanges ou tu leur mettrais un bémol ?
Eh bien, cher Jean, je m'associe aux louanges, même si en règle générale, je ne suis pas une grande fan des films de 2h28. Juste un rappel, à Cannes, la presse internationale a décerné à ce film, à l'unanimité, le prestigieux prix FIPRESI. Alors, Lee Chang-dong s'est inspiré de deux nouvelles, l'une de Haruki Murakami, « Les granges brûlées », et l'autre de William Faulkner, « L'incendiaire », pour décrire le mystère de notre monde et le mal-être de la jeunesse coréenne. La richesse de ce film le rend difficile à classer. Est-ce un film sentimental, à la Juliette Jim ? Est-ce un thriller dans lequel une jeune femme disparaît ? Et est-ce un brûlot social qui oppose les riches et les pauvres dans une Corée au libéralisme débridé ? Lee Chang-dong dit qu'un film est comme un oignon et qu'il revient au spectateur d'en éplucher les couches successives. Il réclame de nous donc une attitude active et sollicite notre imagination par un cheminement inattendu et des mystères brûlants qu'il sème tout au long du film.
Alors, Dominique, quelles sont les couches de cet oignon ?
Eh bien, épluchons. Ce film adopte le point de vue de Yong So, un jeune homme taciturne et désargenté, issu d'un milieu paysan et qui se rêve écrivain. Il rencontre Amy, une très jolie jeune fille, il tombe amoureux. Mais Amy revient d'un voyage en Afrique avec Ben, un dandy aussi beau et riche que Yong So semble banal et pauvre. Nous suivons un temps seulement ce trio ambigu, car Amy disparaît complètement. Yong So espionne Ben, qu'il soupçonne d'avoir tué Amy, et monte en lui une colère intérieure qui le consume jusqu'à l'embrasement final.
Ça, c'est la couche extérieure, c'est l'enveloppe générale.
voilà.
Mais alors, quelles sont les autres scènes qui vont faire apparaître d'autres couches à l'intérieur ? On est friand de savoir.
Par exemple, la scène de la mandarine. Amy, qui rêve d'être actrice, mime pour Yong So l'épluchage d'une mandarine. Elle en déguste les quartiers et nous voyons le jus couler sur ses doigts qu'elle lèche. Nous sentons le parfum du fruit. Ouais, Amy nous invite à oublier que la mandarine n'existe pas. Et je pense que c'est une des couches du film. Ce qu'on ne voit pas existe-t-il ? Ce que l'on voit est-il illusion ? Et encore dans un long plan séquence d'un charme extrême, nos trois héros boivent, mangent, fument et rêvent dans le flamboiement du crépuscule face à la frontière nord-coréenne toute proche. Amy se met à danser seins nus sur la musique d'ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis et c'est un pur bonheur. Un bonheur qui n'empêche pas notre imagination de travailler. Qui aime qui ? Qui est ce mystérieux Ben ? Brûle-t-il des serres en plastique dans la campagne ? Pourquoi le dit-il à Yong So ? Amy est-elle morte ? Le film que nous voyons n'est-il que l'intrigue du premier roman de Yong So ? Les indices ne manquent pas, mais le puzzle est incomplet et nous n'aurons que peu de réponses. Lee Chang-dong nous prévient « Je crois, moi, que nos vies sont des énigmes, que le temps n'éclaircit jamais vraiment. Le septième art est sans égal pour préserver mirages et mystères. » Alors moi, je trouve que ce film vit en nous après sa projection. La mise en scène est absolument virtuose. Les images d'une grande beauté, d'une grande sensualité. Et il y a une bande-son fantastique, je trouve, avec des percussions, de la guitare, des silences, des bruits de la nature, et qui accompagnent extrêmement bien le film, qui nous pose des questions sur la création artistique, sur le sens de la vie, et sur notre monde.
Oui, donc Dominique, un film complexe, avec des thèmes multiples. Jean, est-ce que toi, tu as aimé les différentes couches de cet oignon ?
Eh bien, j'ai trouvé la première partie, donc si on peut appeler ça la première couche, absolument formidable. C'est-à-dire la présentation des trois personnages, leurs relations, la subtilité des relations entre Noémie et les deux garçons, jusqu'à la scène où elle danse sous l'air avec Miles Davis et Ascenseur pour l'échafaud, formidable. Puis après... quand elle disparaît, on retombe dans Karasami. Oui, c'est ça.
Murakami.
On tombe dans du Murakami pur, et ça, franchement, j'aime beaucoup. Moi. Et je m'en fous. Le film m'intéresse plus à partir de ce moment-là.
Tu te intéresses à partir de ce moment-là.
Oui. Pourquoi il brûle des granges ? J'en ai rien à cirer. Ouais. Pourquoi le chat il disparaît ? J'en ai absolument rien à foutre. Etc. Alors.
Il a celle de la mandarine, comment tu trouves ça ?
Ah, parfait. Ouais. Mais c'est dans la première partie.
C'est la première partie, oui, absolument.
Ouais. Et c'est pas du Kurasami, ça. Ouais. C'est de l'autre.
Oui.
Par contre, tout ce qui est Kurasami, franchement, je trouve que c'est complètement inintéressant. Ouais.
Oui, en fait, tu as raison. Enfin, c'est pur Murakami. Effectivement, Murakami, on aime, on n'aime pas. Françoise, tu...
Alors. Bon, moi, je suis sortie du film de fort méchante humeur. De fort méchante humeur parce que j'aime beaucoup Murakami, parce que j'ai beaucoup aimé aussi trois des films de Lee Chang-gang. Et je suis sortie du film en disant... Eh ben, je suis restée sur le sable, je ne suis pas rentrée, je ne me suis posée que des questions. Et c'est seulement après, en réfléchissant longuement au film, que je me suis dit, mais stupide, c'est un film qui pose des questions et qui ne cherche pas du tout à y répondre, d'où l'intérêt. Et là, j'ai commencé à m'intéresser pour le film en me disant que ce film, qui ne répondait pas en tout cas à mon attente, est incroyablement ambitieux, qu'il traite de l'impalpable, du mystère, de cette, ce que tu disais justement, Dominique, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. C'est un film qui nous donne à voir quelque chose qui est invisible et finalement, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir.
Oui, alors Dominique disait qu'elle l'avait revu, mais qu'elle l'avait moins aimé en le voyant.
Oui, parce que je savais que je n'aurais pas les réponses à mes questions.
Non, mais enfin, à l'inverse, un peu de genre, je suis vraiment entré dans ce film, j'adorais ce film. Je trouvais que c'est un film fantastique sur la réalité à l'illusion. Et l'illusion, et en plus, une espèce d'équilibre, et je trouve que ça c'est très coréen, entre un monde très réel, très bien décrit, le thriller, les personnages, les milieux, etc., c'est bien décrit. Et à côté de ça, une espèce on pénètre dans notre monde, dans un monde basé sur l'illusion, je crois que finalement c'est un film très 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 coréen. On avait déjà vu dans pas mal de films coréens que le film coréen souvent il passe de l'autre côté du miroir, il entre dans l'inconscient, dans l'irréel. Et d'un côté aussi c'est un film que je dirais bouddhiste, dans la mesure où l'enseignement du Bouddha résulte dans le fait qu'il nous permet de reconnaître que ce que nous tenons pour réel n'a pas plus de substance qu'un rêve, et que la prétendue réalité est dénuée d'essence, qu'elle n'existe pas en soi. C'est ce côté-là quoi, j'ai vu dans le film.
C'est un film métaphysique, très bien, mais pas. Tu y vois un film métaphysique, toi?
Je vois souvent métaphysique, oui.
Oui, c'est ça qui est un peu enquiquinant, à mon sens.
Moi, je trouve que la première image du film, le premier plan, rend compte de ce que tu viens de dire, de ce que nous sommes en train de dire. Le premier plan, on voit une porte fermée aux deux tiers. On se dit, c'est quoi cette porte? C'est la porte d'une camionnette. Et cette porte, d'une fourgonnette, enfin. Et on voit un jeune homme de dos, bien sûr, parce que c'est un mystère, on ne sait pas, qui va porter un colis au centre commercial. Et cette fourgonnette qui nous embête, cette porte qui nous embête, on ne voit rien. On ne voit rien, ça prend les trois quarts de l'écran. Et en effet, c'est tout à fait intéressant pour cette autre but de film, à savoir qu'on ne voit rien. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, l'évidence, le perceptible, on ne voit pas tout. Je trouve que ce premier plan, il dit tout sur le film. J'ai beaucoup aimé.
Et on suit, il y a un plan séquence où on suit ce jeune homme avec ses pantalons sur l'épaule, mais on ne voit toujours pas son visage.
On ne voit pas.
Et on ne sait pas ce qui c'est.
Et la séquence de la pantomime, là, de la mandarine, c'est remarquable. Ça, j'aimerais la voir 10 fois de suite. Oui. C'est remarquable.
Je trouve qu'elle a introduit très bien, justement, ensuite, toutes les choses mystérieuses dont on ne sait pas s'ils existent ou pas. Le puits, le chat.
Mais tu parlais de la danse de Haïmi, au soleil couchant, sur la musique de Miles Davis. Et je me suis demandé si cette danse n'était pas quelque chose qui faisait référence à ce qu'elle appelle les danses africaines. La grande fin.
C'est ça, la grande fin.
Elles disent bien c'est la fin du sens, d'un sens enfin à donner à la vie, comme ils ont une vie qui n'est pas facile, eux aussi les Coréens, c'est cette idée de trouver un sens, et que la danse finalement on a l'impression qu'elle s'élève, elle a toujours les pieds par terre, mais elle s'élève
vers le ciel,
à demi-nu vers ailleurs.
Et je trouve que cette façon de s'élever de la petite fin vers la grande fin, c'est très beau. Mais là aussi, on rejoint d'ailleurs
c'est métaphysique. C'est vraiment métaphysique.
Mais enfin, la quête du gars là, qui fait le tour des desserts à longueur de journée pour voir si on a une qui n'a pas brûlé, c'est quand même assez inintéressant.
C'est quand même intéressant de se demander pourquoi Yong-soo, qui cherche où Ben a pu brûler une serre tout près de chez lui, ne la trouve jamais. Est-ce que ce n'est pas encore de l'ordre du fantasme?
Bien sûr.
C'est pur.
On pourra y réfléchir de nouveau et revoir le film. Je vous conseille d'aller revoir le film.
2h41.
Oui. On va donner la réponse, mais vous interrogez sur la dernière séquence.
Oui, voilà.
Ça, c'est un point important.
Comment vous l'avez trouvé, elle est magnifique. Le jeu des acteurs dans la dernière séquence.
J'aimerais la revoir, cette séquence.
C'est incroyable.
J'aimerais la revoir. La dernière séquence, c'est un chef-d'œuvre.
Oui, t'as raison.
J'invite tout le monde à aller voir cette film, qu'ils n'ont pas vu, pour voir cette dernière séquence, pour nous permettre de passer au coup de cœur.
Parce qu'on n'a plus le temps d'en parler.
Voilà, écoute, la radio, c'est ça. Françoise, allez, à toi la parole.
Alors,
dépêche-toi.
Coup de cœur, je me dépêche. Alors, comme coup de cœur, j'ai choisi De chaque instant de Nicolas Philibert, qui est un documentaire sur la formation, l'apprentissage, enfin considéré, paraît-il, comme une priorité pour la France. Alors, Philibert, après une hospitalisation en urgence, a décidé de rendre hommage avec sa caméra à la compétence, à l'attention de chaque instant des personnels hospitaliers, en particulier infirmières et infirmiers. Et pour cela, il a choisi l'Institut de formation de la Croix-Saint-Simon à Montreuil. La plupart des élèves sont issus d'un milieu modeste. Ils représentent une vraie mixité sociale et culturelle, qui est celle de notre personnel de santé dans la France d'aujourd'hui. Philibert s'est attaché à filmer les visages, les mains, les attitudes de ces très jeunes gens qui ont fait le choix d'un métier tourné vers les autres. Et il a réussi à capter à la fois leur courage, leur détermination et leur fragilité. Après avoir filmé les cours théoriques, il passe aux travaux pratiques, à savoir l'apprentissage du bon geste technique. Alors il s'entraîne sur des mannequins, mais aussi sur d'autres élèves. Et il faut voir l'émotion que peut susciter la première piqûre pour de vrai. Puis viennent des stages en milieu hospitalier. C'est une plongée dans la vraie vie avec des vrais patients. Et parfois, c'est le choc. Le choc face à la maladie, la souffrance, la mort. Et il apparaît que les beaux principes qu'on leur a inculqués à l'école, à savoir l'écoute, l'attention portée à chaque patient, ces beaux principes sont souvent mis à mal à cause, la réalité économique, le manque effarant de moyens, les sous-effectifs, le stress et tout et tout. Ces retours de stage, Philibert les a filmés longuement parce qu'ils sont essentiels. Nous y découvrons la qualité de l'échange entre l'élève et son formateur, qui est tout à l'écoute du jeune stagiaire, qui est bienveillant, qui cherche la réponse personnalisée, qui va conforter le jeune dans un parcours exigeant. Nous y entendons également, et c'est précieux, le ressenti des soignants, ce dont on ne parle jamais. C'est un très beau document humain.
Merci Françoise. Jean Wilkowski. Jean, à toi. Searching.
Searching. Searching, Portée disparue, est le premier long métrage de l'Américain Anish Chaganty. L'intrigue est simple. Margot Kim, 16 ans, disparue. L'enquête piétine, alors son père David décide de prendre l'affaire en main. C'est un film étonnant où les trois quarts du temps, nous voyons des images d'écran d'ordinateur ou de téléphone portable. Car toute l'enquête que mène le père de la jeune disparue se passe derrière un ordinateur, celui de sa fille. Le suspense grandit au fur et à mesure que David pénètre dans l'univers des réseaux sociaux qu'elle fréquentait. Il découvre qu'il ignorait la vraie vie de Margot, dont il se croyait pourtant très proche. Comme dans un thriller classique, la tension monte progressivement. Sauf qu'ici, l'action est statique et l'émotion vient du fait que l'histoire de la famille Kim est racontée à travers un montage de nos outils de communication quotidiens. Conversations, vidéos, d'entrées de calendrier, d'extraits de films familiaux tournés sur un portable, de SMS ou de séries de photos venant de Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Même en dehors de ces séquences numériques, l'action est très souvent vue par l'intermédiaire des chaînes d'information continue de la télévision, ce qui continue à créer une distanciation par rapport à l'histoire et donne ainsi à ce film une dimension rarement atteinte au cinéma.
Merci Jean. Alors, c'est Dominique, tu vas nous parler d'un film vraiment très différent, un grand succès actuellement, je crois.
Oui, mon coup de cœur, c'est « Première année » de Thomas Lilti. Une histoire romanesque d'une amitié dans l'univers impitoyable des études médicales de première année. Thomas Lilti est médecin généraliste et cinéaste, c'est dire s'il connaît son sujet. C'est le troisième film après Hippocrate en 2014, Médecin de campagne en 2016, dans lequel il analyse notre système médical et ses dysfonctionnements au travers d'une histoire qui nous touche. Nous connaissons tous des jeunes passés par cette première année. Nous savons combien elle est difficile. Mais là, Thomas Lilti nous l'a fait voir et nous l'a fait vivre à travers la rencontre de Benjamin, jeune bachelier brillant et sans problème, qui choisit médecine par héritage familial, et Antoine, de milieu plus modeste, qui triple sa première année par réelle vocation. Entre eux se noue une relation d'amitié, mais aussi de rivalité. À travers cette histoire, Thomas Lilti aborde un thème peu courant, celui des études. Que propose notre université à ces jeunes gens pleins d'envie d'apprendre, prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes? Ici, une année inutile, un tri sévère des étudiants par un bachotage stupide. Thomas Lilti en fait une peinture réaliste, juste dans le moindre détail, avec humour et émotion, sans apitoiement inutile, puisque les étudiants n'ont pas le choix. Ces personnages sont bien dessinés et fort bien interprétés par William Leguil et Vincent Lacoste. Ils croulent sous les polycopiers, se disputent les places dans des amphis bondés, mangent en coups de vent, renoncent à toute vie familiale et sociale, établissent des emplois du temps de forçat et deviennent des machines à répondre aux questions. Un film qui nous interroge tous.
Merci Dominique, on va prendre un petit peu d'air avec un western quand même, parce que vous avez un peu étouffé. Moi je voudrais vous parler des Frères Sisters de Jacques Audiard. Alors moi je ne sais pas qui a dit, il y a des morts qu'il faut tuer deux fois. Mais on pourrait dire ça du western, hein. Il n'en finit pas de mourir. Et de renaître, sous des formes différentes. Ainsi ces Frères Sisters, qui sont si conformes en apparence aux figures imposées du genre. Alors les Frères Sisters sont deux. Il y a Charlie, Joaquin Phoenix, et Ellie, John C. Reilly. Ils sont tués à gage au service d'un patron mystérieux, le Commodore. Celui-ci leur ordonne de mettre la main sur un certain Warm, possesseur d'un secret qui vaut de l'or au sens propre. En ces temps de ruée vers l'or, nous sommes en 1851, Warm, un chimiste, a mis au point une poudre de perlimpinpin qui permet de repérer instantanément l'or dans une rivière. Un quatrième comparse mène à l'histoire, un certain Maurice, détective et journaliste, lui aussi commandité par le Commodore. Mais il se trouve que Maurice a déjà trouvé Warm, et chevauche le conserve. C'est donc à la recherche de ce duo que se lancent nos Frères Sisters dans une trame hyper classique. Et ce déroulement de cette trame classique va bien sûr adopter toute la panoplie du western. Incendie de ferme, chevauchée, bivouac au feu de bois, beuverie dans les saloons et longue séquence de combats au pistolet où l'on n'en finit pas de regarder les hommes tomber, comme dirait Jacques Audiard. Et c'est là où on le retrouve, Audiard. Dans cette description d'un univers masculin crépusculaire où les femmes sont rares, où les Frères Sisters apparaissent comme des anti-héros abrutis, parfois pathétiques, violents toujours, accablés par ce destin que leur a imposé le sang pourri transmis par leur père, et ces Frères Sisters qui ne rêvent au fond qu'une seule chose, retourner chez maman. Mais ce désir de retour vers l'enfance et vers les émotions qu'on y a connues, c'est peut-être aussi un versant caché, et particulièrement touchant de ce western raconté avec le regard attendri d'un homme qui se penche avec délice et humour sur son passé, tout en éprouvant le désir qu'on le prenne quand même pas trop au sérieux. Comme une façon de dire, je n'y crois plus, mais quand même. Voilà, je crois que le temps est venu de nous quitter. Merci à Françoise, merci à Dominique et à Jean, et merci à Arnaud qui a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant, qui aura lieu le mardi 23 octobre de 13h15 à 14h.